Le Crétois, c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
C'est toutes les semaines.
Et c'est maintenant.
Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de l'actualité locale sur Radio Saint-Ferréol avec la lecture du Crétois. Aujourd'hui en studio, il y a Marie-Hélène, Brigitte et Judith, notre stagiaire de seconde, et pour vous servir Philippe à la technique, pour faire la lecture du Crétois du vendredi 20 juin. Alors, par qui commence-t-on ? Ce matin.
Donc, je vais vous parler d'un site classé à Suse, Gigor et Cobonne, avec un point d'interrogation. Donc, le synclinal de Saint-Pancras et le plateau de Savelle pourraient être classés. Pourquoi faire ? Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Une réunion publique où tout le monde s'accorde à dire que la beauté de son cadre de vie mérite amplement d'être préservée. Et que l'État offre la possibilité de le faire, dans une certaine mesure, bien sûr. Ainsi, le mardi 17 juin, a eu lieu une réunion publique organisée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le DREAL, en présence du responsable, Christophe Balébaz, et de l'inspectrice des sites classés dans la Drôme, Élodie Courtiade. Ceux-ci étaient venus présenter l'avancée du travail fourni par leur service afin que le synclinal de Saint-Pancras, le plateau de Savelle et leurs abords deviennent le 20e site classé de la Drôme. Le synclinal, perché entre Cobonne, Suse et Gigor et Lozeron, rejoindrait ainsi son célèbre cousin, le synclinal de Soue, et des lieux aussi emblématiques que la Combe Laval, le cirque d'Archiane ou les Grands Goulets. En France, 1,8% du territoire national est classé au titre de paysage remarquable et 237 sites se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes. Première bonne nouvelle, au printemps, des inspecteurs des sites nationaux sont venus visiter les lieux et ont rendu un rapport favorable au classement du site. Ils écrivent « Au vu de sa richesse propre, en ambiances intimes, en patrimoine remarquable, mais également au vu de sa position centrale évocatrice dans le paysage, des panoramas qu'il offre, de la qualité paysagère de ses silhouettes émergeant de l'horizon, et enfin des surprises et découvertes offertes par ses approches et promenades, le synclinal de Saint-Pancras présente les caractéristiques d'un site ou d'un monument naturel pittoresque. Qui l'eût cru ? Les hauts fonctionnaires sont des poètes. Ce sont aussi de redoutables paysagistes capables de suggérer entre le périmètre exact du site à protéger et en fonction de la cohérence des lieux, des points de vue et des limites naturelles à poser.
C'est la beauté des sites. À la suite de leurs recommandations, ainsi que de celles fournies par les habitants lors d'un atelier qui s'était tenu en janvier dernier, la paysagiste Caroline Giogerti et l'architecte Michel Prat ont présenté un périmètre détaillé du futur site classé. Ce dernier va à l'ouest de la route départementale 731 jusqu'à Sagnoles au nord, avant de redescendre par l'ancien chemin de Gigor à Combeauvin, le ravin des Combes, le chemin de Gigor à Lozeron, le ruisseau des Vignes, de Chantemerle, l'ancien chemin de Cobonne à Beaufort, le chemin des Menus, le ravin de la Ferrande, le chemin de Cobonne à Chausséon, celui du Beau-Brunet, avant de retrouver la route de Suse. À l'intérieur de ce périmètre, donc, le site sera classé au titre de son paysage remarquable. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Élodie Courtiade l'a expliqué d'emblée. Ce classement n'implique aucune réglementation. Tous les usages y sont autorisés normalement. L'inspectrice des sites classés a défendu une approche bienveillante envers les divers porteurs de projets dans le secteur qui verront sans doute les détails d'études de leurs demandes s'allonger un peu, en attendant l'avis qu'ils devront obtenir en cas de travaux ayant impact sur le paysage. Le bon réflexe, c'est de me contacter afin qu'on travaille ensemble sur une meilleure intégration du paysage. En général, les pétitionnaires sont contents du résultat, et sauf exception, je ne donne jamais d'avis négatif, a-t-elle rassuré. Il n'y aura que 3 interdictions. D'abord, l'installation de lignes électriques nouvelles. Elles doivent être enfouies. Ensuite, la création d'aires camping-caravaning. Et en troisième, la publicité et l'implication de pré-enseignes.
Les antennes 5G entravées ? Et les antennes 5G ? A très vite demandé un participant. Une question d'autant plus pertinente que ce projet de site classé est né dans la tête des élus à la suite du combat qu'ils ont dû mener contre le projet d'installation d'une antenne à Suse. « Elles ne sont pas formellement interdites », a d'abord répondu Christophe Balébaz de l'Adréal, suscitant un petit flottement dans la salle. Avant d'ajouter, « Mais elles doivent obtenir notre autorisation » et ne pas dénaturer le paysage. En général, on pousse les opérateurs dans leur retranchement. Est-ce que ça répond à un besoin ? Murmure dans la salle, pas franchement rassuré. Un habitant enchaîne. Qui définit la nécessité d'une antenne ? Est-ce que la mairie peut faire contre-pouvoir et l'État l'interdire ? Réponse. Oui, bien sûr. Les communes ont directement leur mot à dire. Sur un site classé, implanter une antenne s'il n'y a pas de besoin. Pour nous, ça va être compliqué d'aller vers une autorisation. Et les éoliennes ? Les crêtes sont très, très bien protégées, répond Christophe Balébaz. Tellement que, dans notre région, les opérateurs ne viennent pas sur les sites classés. Pareil pour les carrières nouvelles. Dans la salle, le soulagement est palpable. Pour voir naître ce 20e site classé dans la Drôme, reste désormais à organiser l'enquête publique que le Dréal espère pouvoir tenir en novembre prochain. Puis il reviendra aux instances départementales et nationales des sites classés à s'exprimer avant que le dossier n'arrive sur le bureau du ministre qui doit prendre la décision par décret. Article écrit par Blandine Flipeau.
Encore merci aux porteurs de titres de la SCOP Le Crétois. Ils ont tenu leur première assemblée générale. En juin 2023, la SCOP Le Crétois s'apprête à reprendre la barre du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l'hebdomadaire Le Crétois, alors que l'imprimerie est sur le point d'être liquidée. La jeune entreprise, qui vient déjà de racheter le fonds de commerce, a besoin de trésorerie, mais aussi d'un soutien populaire pour continuer à éditer le journal. Et c'est exactement ce qu'ont apporté à ce moment-là 170 personnes de Drôme et de Navarre qui ont décidé de soutenir Le Crétois en lui prêtant de l'argent grâce à la souscription de titres participatifs, des valeurs mobilières émises par des coopératives ici rémunérées 3% par an. En quelques semaines, 506 titres de 100 euros sont souscrits, soit 50 600 euros. De quoi relancer l'activité sereinement, en plus de dons et d'emprunts bancaires. Pour la première assemblée générale, des porteurs de titres participatifs, qui s'est tenue de vendredi 13 juin à la salle de la MAP à Cré, une vingtaine de ses prêteurs solidaires étaient réunis autour de l'équipe salariée, le Crétois. 7 salariés pour 5,4 équivalents temps plein. Il s'agissait de revalider les conditions de ces prêts, d'entretenir le lien et de les remercier à nouveau. Le rapport d'activité du premier exercice, juin 2023-décembre 2025, que vous pouvez consulter sur lecrétois.fr. Leur a également été présenté avant une discussion sur les débuts et le futur de la SCOP et tout de même le verre de l'amitié. Le Crétois, qui a fêté ses 125 ans en mai dernier, compte aujourd'hui près de 1000 abonnés papier, contre environ 900 à la reprise, plus de 250 abonnés numériques. Le journal, tiré à 3000 exemplaires, est distribué dans environ 70 points de vente. Le développement de la SCOP à court et moyen terme doit passer par une refonte de son offre numérique et pourquoi pas une extension de sa zone de diffusion. Article écrit par la SCOP Le Crétois.
Un vaste projet d'aménagement à Mazerel. 200 logements pourraient sortir de terre. L'IME du Val-Briand devrait quitter Grane pour Cré. C'est un projet d'envergure. Le lundi 16 juin, à l'occasion du conseil municipal, la maire de Cray, Stéphanie Karcher, a présenté au détour d'une délibération qui venait conclure une assemblée longue et studieuse, un vaste projet d'aménagement pour le quartier de Mazorel. L'objet du vote, fixer le taux d'une taxe d'aménagement majorée applicable sur un secteur de 9,1 hectares entre la rue Driss Schreiby et le chemin de Mazorel, à quelques encablures du collège Revesel-Long et du centre hospitalier de Cré. Une taxe qui permettra de financer les aménagements nécessaires au développement de cette vaste zone qui pourrait bientôt accueillir de nouveaux logements individuels et collectifs, dont des logements sociaux et un équipement public. L'Institut médico-éducatif, un IME, actuellement installé à Granes, dans un ancien noviciat capucin du Val-Briand. Si la surface totale du secteur concerné est de 91 000 m², la ville de Cré envisage que 195 logements sortent de terre pour un total de 19 500 m² de surface construite.
Sites à bâtir. Je cite Stéphanie Karcher, maire de Cré. On a voulu s'inscrire dans un équilibre d'ensemble, avec l'intégration d'une mixité forte en habitants collectifs et individuels, logements sociaux et arrivée d'un équipement public qui n'était pas prévu à l'origine, l'IME à Granes. Le programme qui pourrait s'étaler sur 10 ans, a indiqué Stéphanie Karcher, transformera Mazorel en un secteur sain d'apaisement avec un hôpital, demain une gériatrie, un collège de la vie, dans un environnement privilégié. Un projet très social-sanitaire, dans un endroit qu'il est déjà, a-t-elle résumé. On se réjouit de la nouvelle composante sociale du projet, notamment des 25% de logements sociaux et du travail fait avec l'IME. Elle réagit Athénaïs Kouidri pour le groupement d'opposition. L'élu socialiste a demandé des précisions sur la nature des logements qui seraient bâtis alors que la mairie annonce une superficie moyenne de 100 mètres carrés. Une question un peu précoce a semblé lui répondre Madame Karcher. Je cite « Aujourd'hui, il n'y a pas de permis de construire, pas de permis d'aménager. Pour le logement collectif, il y aura du T2, du T3, du petit collectif. Il y aura tout type de typologie de logement, mais aussi, et c'est plus prudent de ne pas donner plus d'éléments de programmation. Nous avons déjà dit beaucoup. »
Une taxe majorée. Pour que cette zone puisse accueillir autant de nouveaux logements et de nouvelles infrastructures, la ville devra engager d'importants travaux pour un montant aujourd'hui estimé à 1 424 000 euros. Des travaux qui seront financés via la taxe d'aménagement majorée, dont le taux a été fixé à 13% contre 5% ailleurs. Ces aménagements consisteront principalement en la construction de nouvelles voiries pour 579 000 euros, de nouveaux trottoirs pour 413 000 euros, d'un réseau de collecte des eaux pluviales pour 186 000 euros, de l'éclairage public 127 000 euros, d'une piste cyclable 84 000 euros et d'espace vert 34 000 euros. Le financement de l'opération n'a visiblement pas convaincu l'élue d'opposition Catherine Pan, qui s'est abstenue après s'être inquiétée que les recettes générées par la taxe soient insuffisantes pour financer l'entièreté des aménagements. Jean-Marc Matra, élu de la majorité déléguée aux services concédés, n'a pas non plus semblé très emballé par l'idée et a rappelé que le paiement de cette taxe reviendrait non pas à l'aménageur, mais aux particuliers et aux promoteurs immobiliers qui porteront les projets de construction. Cette surtaxe pourrait effectivement rendre financièrement moins intéressante la vente des terrains concernés et la construction de nouveaux logements. Sur les petites parcelles, ça commence à ne plus être concurrentiel, a admis Stéphanie Karcher, qui a néanmoins défendu un choix d'équilibre de la municipalité. Elle a indiqué que l'arrivée dans le programme de l'IME est d'une part importante que prévue de logements sociaux, qui peuvent, eux, déroger à cette surtaxe, ferait supporter la différence aux particuliers et aux promoteurs privés. Sinon, on ne met pas d'équipement public et on ne choisit pas de mettre du logement social. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. La délibération a été votée par tous les élus du Conseil, excepté Catherine Pan, qui s'est abstenue. Article écrit par Martin Chouraki.
Alors, l'article suivant concerne une exposition qui va sûrement intéresser beaucoup de monde. C'est celle de Bruno Catalano, qui s'appelle « Traversée commune ». Elle est à voir du 21 juin au 5 octobre au Centre d'art. La ville ouvre son centre d'art à un sculpteur qui a choisi de vivre à Cray, d'y créer, de développer le réseau des savoir-faire, d'excellence, locaux, et de s'engager dans la valorisation de son patrimoine. C'est Bruno Catalano. Ses célèbres sculptures en bronze de voyageurs ont conquis le monde entier depuis 10 ans. Cet artisan sculpteur, comme il se définit lui-même, exposera ses œuvres, mais pas seulement. Le public pourra découvrir le processus de création, les matières et les techniques tout au long d'un parcours scénographique immersif pour une traversée commune. Bruno Catalano est né au Maroc en 1960 et c'est avec des amis qu'il découvre d'abord l'artisanat des masques de cuir, puis il se consacre à l'argile à partir de 1991. Pas à pas, il s'installe dans son propre atelier, acquiert son propre four et fait enfin de la sculpture son activité principale. Il gagne une reconnaissance officielle quand, en 2001, la mairie du 5e arrondissement de Marseille lui confie l'exécution d'un buste d'Yves Montand pour orner le square qui lui est dédié. Il inaugure ainsi une production d'œuvres d'art public qui va devenir le cœur de son travail. Sa pratique prend un tour nouveau en 2004 lorsqu'un accident de coulée de métal ouvre une brèche à la fois dans le corps de la sculpture et dans les habitudes de l'artiste. Il décide alors de faire cette déchirure de la matière un élément central de sa production. La série des voyageurs commence.
Et on poursuit avec une conférence sur les femmes peintres, une conférence de Salomé, le 27 juin à Saillant. Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes? Le nombre de femmes peintres célébrées par l'histoire de l'art est relativement réduit. Ce n'est pas étonnant entre les œuvres anonymes, celles faussement attribuées à des hommes et celles abandonnées dans les placards des musées. Le talent des femmes s'est aussi heurté à de nombreuses interdictions, plus ou moins respectées selon les époques. Interdiction d'étudier l'anatomie, la perspective, de peindre de grands formats, interdiction de fréquenter les ateliers et les écoles, interdiction de devenir peintre des cours royaux, de traiter des sujets prestigieux, de diriger un atelier. Et ne parlons pas des insinuations venimeuses sur leur réel talent, leur féminité et leur vertu. Elles ont mis en place des stratégies pour contourner ces embûches poussées par des génies et leur irrésistible désir de peindre. Découvrons-en quelques-unes, elles ne sont pas si rares, au cours de la conférence du 27 juin à 20h30 à la salle polyvalente de Saillant.
Et pour finir, quelques annonces. On a retenu dans ce journal du Crétois du 20 juin, autour des chauves-souris, c'est le lundi 30 juin, la mairie et la Ligue de protection des oiseaux organise à l'ancienne école du Mont des ateliers, une conférence sur les chauves-souris, autour des chauves-souris. C'est la première annonce. La deuxième, on a retenu un mini-salon du livre écolo. Une dizaine d'auteurs sont attendus à l'usine vivante à Cray le samedi 21 juin de 10h à 20h. La troisième annonce concerne une exposition qui s'appelle « Les corps tordus » de Nadia Pronina. C'est une réfugiée artiste ukrainienne qui expose à Cléon-d'Andran jusqu'au 7 juillet. Venez la voir, ça vaut le coup. Et la quatrième annonce, c'est la fête de la musique pour aujourd'hui. Il y a de la musique partout, à Cray, dans toutes les communes environnantes. Vous pourrez vraiment trouver ce qu'il vous plaît. Au revoir.
C'était la lecture du Crétois du vendredi 20 juin avec Marie-Hélène, Brigitte et Judith. Merci beaucoup.
À vous tous.
Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Le Crétois, c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
Et pour cette semaine.
C'est fini.